Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur un extrait de l'évangile que nous allons entendre dimanche prochain, la passion de notre Seigneur Jésus en Saint-Luc, sur un extrait de cette passion qui sera le passage décrivant la prière de Jésus au mont des Oliviers à Gethsémani. Un mot pour situer le contexte, nous sommes dans le cadre des préparatifs de la grande fête de la Pâque, où de nombreux juifs montent de tout le pays et même de l'étranger pour venir célébrer la Pâque à Jérusalem. Jésus lui-même vient d'anticiper ce repas avec ses disciples en transformant cette Pâque qui faisait mémoire de la sortie du pays d'Égypte en la Pâque de Jésus, l'annonce de sa mort et de sa résurrection, en instituant aussi le sacrement de l'Eucharistie. Voilà que le pain consacré devient son corps, que le vin consacré devient son sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Il a annoncé qu'il allait être arrêté, que les apôtres allaient s'enfuir. Il a annoncé la trahison de Pierre, qui ne croit pas à cela. Et voilà que le repas terminé, Jésus part à Gethsémani, au mont des Oliviers, où il avait l'habitude de se retirer avec ses disciples. C'est en face du temple, au-delà de la vallée du Cédron, mais c'est à une distance que l'on peut parcourir pendant le temps du sabbat. Mais Jésus ne s'en va pas dormir, il s'en va prier. Lisons maintenant le texte de l'Évangile. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce soit fait non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Voilà donc que la première disposition de Jésus lorsqu'ils sont arrivés au lieu dit de Gethsémani est d'exhorter ses disciples à prier pour ne pas entrer en tentation. Notez qu'il n'est pas dit « priez pour que vous n'ayez pas à rencontrer l'épreuve », mais « priez pour ne pas entrer en tentation ». L'épreuve sera inévitable, mais la question est de savoir comment est-ce que nous allons vivre et traverser cette épreuve. Soumis, prisonniers du pouvoir de la tentation, ou bien vainqueurs de la tentation. L'épreuve, parce que nous sommes bousculés, parce que nous sommes privés de nos repères habituels, est un lieu propice à l'exercice de la tentation. Jésus appelle ses disciples à une veille priante. Le pape Benoît XVI, dans son livre « Jésus de Nazareth », commentait ainsi le risque de somnolence des disciples. Je cite « La somnolence des disciples demeure tout au long des siècles l'occasion favorable pour les puissances du mal. Cette somnolence est un engourdissement de l'âme qui ne se laisse pas émouvoir par le pouvoir du mal dans le monde, par toute l'injustice et toute la souffrance qui dévaste la terre. Il s'agit d'une insensibilité qui préfère ne pas percevoir tout cela. Elle se tranquillise en se disant qu'au fond, tout cela n'est pas si grave, afin de pouvoir rester ainsi dans la jouissance d'une vie satisfaite d'elle-même. Mais cette insensibilité des âmes, ce manque de vigilance aussi bien à l'égard de la présence toute proche de Dieu qu'à l'égard de la puissance menaçante du mal, confère au malin un pouvoir sur le monde. » Fin de la citation. Nous saisissons par cette citation que la vigilance dans la prière du chrétien est à la fois une vigilance qui doit lui permettre de résister à la tentation, donc un combat spirituel pour sa propre conduite, mais que cela aussi conséquence vers l'extérieur. C'est que si le chrétien est justement rempli de Dieu, alors il interviendra dans le monde et autour de lui. Mais si lui-même ne s'est pas structuré autour du Seigneur, alors il ne tiendra pas son rôle et il donnera d'autant plus de liberté aux forces du mal pour agir et pour ravager le monde. Pour la vie du monde, le chrétien doit être rayonnant de Dieu et donc vigilant dans la prière. Puis nous assistons à la prière de Jésus. Tandis que Matthieu et Marc nous disent que Jésus tombait la face contre terre, Saint Luc nous dit que Jésus priait à genoux. Et dans cette position de prière à genoux, il nous donne un élément que l'on retrouvera dans la prière chrétienne. On verra en effet que Étienne, durant sa lapidation, fléchit les genoux et prie, que Pierre s'agenouille avant de ressusciter Tabitha dans les Actes des Apôtres, que Paul se met à genoux au moment de prendre congé des anciens d'Éphèse, et une autre fois encore lorsque les disciples lui disent de ne pas monter à Jérusalem, au chapitre 21 des Actes. Ainsi, on voit que Jésus définit une des positions de la prière chrétienne. Cela nous permet de faire une petite parenthèse. Savons-nous utiliser la position de notre corps pour vivifier, parfois même réveiller notre prière? Souvenons-nous que la position assise, c'est la position de celui qui écoute ou de celui qui enseigne. La position debout, c'est le signe de l'homme ressuscité. La position de l'homme prostré à terre, c'est celle de l'homme mort ou qui se présente justement frappé par la mort devant Dieu appelant sa miséricorde. À genoux, c'est la prière de supplication et la prière d'adoration. Il peut être très précieux de savoir varier les positions de notre corps pendant nos temps d'oraison. La prière de Jésus à laquelle nous assistons est divisée en deux temps. Un premier temps, une supplication. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Il faut d'abord rappeler quelle est la coupe dont il s'agit. C'est la coupe de la colère dont on peut parler dans l'Ancien Testament. La coupe qui est remplie par le cri, la détresse, l'appel à la justice de tous ceux qui sont injustement opprimés, de tous ceux qui sont oppressés, de tous ceux qui sont injustement traités. Devant Dieu, le cri de la victime n'est pas perdu, n'est pas oublié. Il faudra que l'on en rende compte. Il faudra qu'on lui rende des comptes. Dans cette coupe, il n'y a pas seulement l'énonciation de l'injustice, du motif de l'injustice, mais aussi toute la peine, toute la rage, toute la colère, toute la violence et parfois le désir de vengeance qui peuvent naître de cette injustice. La coupe qui se présente à Jésus, ce n'est donc pas simplement la passion au sens de supplice de la croix, et les chemins douloureux ainsi que la flagellation et le couronnement d'épines qui le précéderont, mais aussi l'onde de choc du cri des innocents bafoués et de leur demande de justice. Ce sont les deux aspects que Jésus va encaisser sur la croix. On comprend alors l'expression de la nature humaine de Jésus qui demande « Éloigne de moi cette coupe ». C'est l'effroi de l'humanité faite pour la vie et pour la communion qui va devoir affronter la torture, la mort, plus toute la rage causée par le péché du monde. Il faut se rappeler que Jésus, étant le Fils, est celui qui voit avec la plus grande clarté toute la marée immonde du mal, tout le pouvoir du mensonge et de l'orgueil, toute la ruse et l'atrocité du mal qu'il va porter pour enlever le péché du monde. On comprend le poids de l'angoisse que cela doit générer, et on comprend mieux le phénomène qui se produit lorsque la sueur de Jésus devient comme des grosses gouttes de sang, élément qui manifeste une tension extrême et qui est aussi particulièrement épuisant. Vient alors la deuxième partie de la prière. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. On peut facilement faire une erreur théologique d'ailleurs en regardant cette deuxième partie de la prière de Jésus, en pensant que on a la volonté du Fils qui se plie à la volonté du Père. C'est ce qui donne parfois des représentations impitoyables du Père, un Père qui demande vengeance et satisfaction, et un Fils finalement qui s'y colle pour apaiser le courroux du Père. Or, il y a un seul Dieu, ce qui signifie qu'il y a une seule nature divine, ce qui signifie qu'il y a une seule et unique volonté divine. La volonté divine est volonté du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a donc pas de décalage entre la volonté du Fils et la volonté du Père, c'est la même et unique volonté divine. On n'est pas dans un schéma où la volonté du Fils s'écraserait devant la volonté du Père. Il y a bien une adéquation qui se produit, mais pas entre la volonté du Père et la volonté du Fils, entre la volonté humaine et la volonté divine. La volonté humaine de Jésus, cette volonté qui dépend de sa nature humaine, et qui va s'appliquer, qui va rejoindre la volonté divine du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Jésus restaure la capacité de la volonté humaine à se donner. Jésus restaure la capacité humaine d'épouser la volonté divine. Alors qu'au jardin d'Éden, la volonté humaine s'était détachée de la volonté divine, au jardin de Gethsémanie, la volonté humaine épouse la volonté divine. La mention de l'ange qui vient réconforter Jésus manifeste par ailleurs que nous ne sommes pas face à un Dieu sanguinaire, torsionnaire, quoique rémunérateur. La joie de Dieu est de voir l'humanité restaurée dans sa capacité d'aimer, dans sa capacité à l'amour, pas dans la souffrance et les tortures qu'endure Jésus. C'est l'amour qui sauve, pas les kilos de souffrance. La souffrance sera un révélateur de la profondeur de l'amour qui est vécu, puisqu'il va jusqu'à endurer cela. L'épisode de l'agonie de Jésus à Gethsémani est un épisode qui peut servir tout particulièrement à la contemplation lorsque l'on est dans l'angoisse, lorsqu'on est dans la peur de l'avenir, ou même lorsque parfois à cause de maladies psychiques on est enfermé dans l'angoisse, enfermé dans la peur. Je peux alors prier en disant « Seigneur, je suis avec toi dans cette agonie ». Au point que peut-être moi aussi je somatise. Toi, tu as une sueur qui devint comme des gouttes de sang, moi c'est peut-être par d'autres phénomènes que ça se manifeste. Mais voilà que je veux me tenir avec toi, Seigneur. La solitude de Jésus à ce moment-là, on le voit bien au fait que les apôtres sont endormis, peut rejoindre aussi celui qui, à cause de sa souffrance, se sent seul, se retrouve seul. Voilà qu'à Gethsémani, je peux confier mon angoisse, ma solitude, mon absence de perspective d'avenir heureuse. En contemplant l'épisode de Gethsémani, en entrant dans le jardin de Gethsémani, c'est alors le Christ lui-même qui peut se faire pour moi l'ange qui le réconfortait. La méditation de Gethsémani est vraiment l'arme, on pourrait dire le refuge, de celui qui est affronté à l'angoisse, à la détresse, à la dépression peut-être, à cette impression d'être seul, en l'étant parfois réellement. Voilà que l'on rejoint Jésus seul dans ce jardin. Jésus qui s'offre, Jésus qui lutte pour mettre sa volonté humaine en adéquation avec la volonté divine. Et Jésus aussi qui reçoit en ce temps la force de vivre jusqu'au bout l'offrande de lui-même. Ce sera certainement un sujet d'émerveillement à la fin des temps, lorsque nous découvrirons tous les fruits dont nous avons bénéficié grâce à ceux qui, dans le mystère de Gethsémani, se sont offerts avec le Christ, ont veillé avec le Christ, et ont répandu sur l'Église une grâce qui nous a permis de tenir debout. Je vous souhaite de bons échanges.